Vanessa, Sophie, Clara, Estelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes. Bonjour, aujourd'hui pour l'émission Autrement, je reçois Clara. Clara a ouvert une boutique de mercerie à la Chaussée Saint-Victor il y a 8 ans et elle vient nous en parler. Bonjour Clara.
Bonjour.
Raconte-moi, comment en es-tu venue à ouvrir une mercerie? Quelle idée originale?
Alors, ça vient d'un goût pour tout ce qui est, oui, boutique de mercerie qui remonte à certainement très loin dans mon enfance, avec un souhait peut-être un jour d'en ouvrir une. Et j'aurais plutôt vu ça la cinquantaine passée. Et puis en fait, il y a 8 ans, une occasion s'est présentée de reprendre une jolie boutique qui était installée dans le centre-ville de Blois, que j'ai choisi de délocaliser à la Chaussée Saint-Victor, mais où j'ai pu construire dans des conditions vraiment idéales un univers que j'adore.
Tu parles d'une jolie boutique, j'imagine qu'à l'époque tu en étais client?
À l'époque j'étais cliente régulière. J'ai commencé en fait à approcher la mercerie étant enfant avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère qui fréquentait les merceries, une arrière-grand-mère qui faisait des canevas, qui faisait des réparations de couture. Et puis après moi j'ai commencé avec le point compté et puis petit à petit j'ai découvert d'autres broderies. J'ai découvert le patchwork et puis un peu la couture. Et en effet, j'étais cliente de la boutique du centre-ville. Je connaissais bien Constance qui tenait cette boutique. Et quand elle a cherché à transmettre son commerce, elle m'en a parlé. Et puis, ça s'est fait très, très vite, en fait.
Que faisais-tu avant? T'étais dans le commerce?
Pas du tout. Je viens de l'univers de la fonction publique, plutôt directrice financière. Et puis après, cadre de direction sur les services sociaux au conseil départemental du Loir-et-Cher.
Oui, donc un poste quand même de responsabilité avec, j'imagine, des horaires à rallonge. Est-ce que tu as subi une charge de travail qui, à un moment donné, t'a fait dire stop? Ou est-ce que vraiment c'est juste la mercerie qui t'a fait dire non, j'y vais parce que c'est ma passion?
Il y a les deux. Alors moi, j'ai eu une grande chance, c'est que sur tout mon parcours professionnel, j'ai fait 20 ans de fonction publique avant et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes extraordinaires, de faire des choses que j'ai adoré faire, mais avec, en effet, sur les dernières années, une charge de travail importante, une charge mentale importante, une responsabilité aussi managériale assez importante, qui commence à me peser. Et en parallèle, voilà, quelque part dans la tête, un petit fil conducteur qui me disait un jour peut-être, et puis, ou peut-être jamais, ça dépendra. Et puis, y a des fois, les planètes sont bien alignées et avec une relation privilégiée quand même avec Constance qui tenait la boutique en centre-ville. Une rencontre au bon moment. J'y suis peut-être allée le bon samedi matin quand elle était décidée à arrêter, qu'elle n'avait pas le moral parce qu'il y avait moins de clientèle en centre-ville. Voilà, ça s'est fait comme ça sur une relation presque amicale, cordiale et puis une transmission qui s'est faite vraiment de façon privilégiée.
On sent une certaine douceur dans cette transmission quand tu en parles en tout cas.
Oui, parce qu'on a essayé de le faire le plus intelligemment possible. Et je crois qu'on était toutes les deux volontaires pour que ça se passe bien. Constance m'a vendu tout son stock. Moi, je me suis installée, j'en ai parlé avant, donc à la Chaussée Saint-Victor. Il lui manquait 2 trimestres pour avoir une carrière complète. Je l'ai salarié. Ce qui l'a rangé, ce qui m'a rangé aussi, parce que ça lui a permis aussi de me présenter à sa clientèle, de me présenter aux fournisseurs, de me parler du métier, parce qu'entre l'idéal de... On voit un commerce avec des articles à vendre et on connaît leur utilisation pour certains. Il y a un certain nombre de produits que je ne connaissais pas, que je ne savais pas bien utiliser. Et c'est vrai que sur 6 mois, et puis même encore aujourd'hui, puisque je la vois, on se voit très régulièrement, la transmission a pu se faire de ses savoirs. Et ça, dans un climat très serein, très posé, très amical, très chaleureux.
Tu fais partie quand même des personnes qui ne sont pas allées jusqu'au burn-out. Il n'y a pas eu de craquage de ta part qui t'a mis à mal au point de devoir quitter ton travail en urgence. Finalement, c'est arrivé au bon moment?
Alors, c'est arrivé complètement au bon moment. Et oui, j'ai parfois été fatiguée. Ce sont les travaux des huit qui m'ont aidée aussi à tenir, à ne pas craquer à certains moments. Je ne me suis jamais sentie parfois un peu borderline par rapport à un burn-out. Et en même temps, j'ai toujours été très bien dans mes fonctions. Et plutôt bien accompagnée, bien entourée. Voilà, je crois qu'il y a des fois... Enfin, c'est vraiment été l'occasion de partir avant que ce soit un trop-plein.
C'est très beau.
Voilà.
Quel est le rôle de la famille par rapport à tout ça? Comment tu as été accompagnée au niveau familial et au niveau amical? Est-ce que les gens t'ont dit « waouh, c'est génial » ou est-ce qu'il y en a qui t'ont dit « mais stop là, tu fais n'importe quoi
». Au niveau familial, c'était un beau projet familial parce qu'un projet comme ça, et quand on quitte le métier que j'avais, c'est pas sans conséquences. Et là, j'ai un mari extraordinaire qui m'a accompagnée vraiment sur tout au long du projet parce que quand il a... D'abord, il a deviné que j'allais reprendre la mercerie de Constance sans que je lui en parle. Et ça, c'est un beau témoignage d'amour.
Oui, en tout cas, elle t'avait bien observé pour être capable de voir ça sans les mots.
Ouais. Et quand on en a parlé, il m'a tout de suite dit, il faut que tu fonces, tu y vas. Et dès l'après-midi, il m'a trouvé le local où j'allais m'installer. Donc, il a vraiment été partie prenante sur le projet, et il l'est encore. Parce que toute décision a un impact quand même sur la vie de famille. Les filles, on en avait parlé aussi, parce que ça changeait quand même aussi la donne. Ça voulait dire, travaille le samedi.
Oui.
Donc plus de jours avec les filles. Et elles ont été aussi vraiment accompagnantes et plutôt vas-y maman, quoi. On suit dans ce projet. Donc ça a été vraiment, vraiment chouette aussi.
Quel âge elles avaient à l'époque?
Alors il y a 8 ans, Rachel avait 13 ans et Julie allait en avoir à peine 18.
Donc c'est quand même un âge, l'adolescence, on a vraiment encore besoin de ses parents. Ouais. Et donc effectivement, dire à sa maman, ok, le samedi tu peux pas être là, c'est aussi une preuve d'amour de leur part.
Ouais, d'autant que on sortait de quelque chose d'assez difficile avec notre grande et c'était quand même un pari.
Un pari qui a été relevé, donc du coup, haut la main, et main dans la main pour toute la famille, finalement.
Oui. Oui, oui. Et puis après, et bien accompagné par notre entourage.
D'accord. Personne n'est venu dire, on ne comprend pas.
Il y a eu quelques remarques, pas vraiment de critiques sur tu te rends compte ce que ça implique en termes de revenus, en termes d'investissement, parce que alors... Je travaillais beaucoup auparavant. Quand on reprend un commerce, on y est tout le temps. Ça fait partie de la vie. On y pense le soir, on y pense la nuit, on y pense le week-end, on y pense pendant qu'on est en vacances, on pense aux nouveaux projets, on pense à des choses qu'on va pouvoir relancer, on va à un fournisseur qu'on aimerait contacter. Voilà, on y est tout le temps parce que ça conditionne notre quotidien. Alors après, quand c'est des métiers passion, c'est génial. Mais il faut que tout le monde suive.
Tout à fait. J'ai un peu côtoyé ton magasin, donc je sais que ta fille aînée, à un moment donné, a été vraiment participante au projet, puisqu'elle était à la boutique. L'amour de l'aiguille, on le retrouve aussi bien chez toi que chez elle.
Oui, oui. Et Julie, maintenant, a quitté la région, mais elle continue à faire beaucoup de travaux d'aiguille. Et très régulièrement, encore ce week-end, elle m'a envoyé une photo d'une réalisation en me disant « Tu vois, tu peux faire une publication Facebook, j'ai fait avec tes produits. » Voilà, et elle continue à faire beaucoup de choses.
Oui, donc même à distance, elle soutient ton projet, la mercerie.
Oui.
Cette mercerie, comment tu l'as rêvée au départ?
Je cherchais à recréer la boutique que j'aurais voulu avoir en tant que cliente. C'est-à-dire un endroit où on trouve une grande diversité de produits. Il n'y a pas tout, parce que c'est une petite boutique malgré tout, mais il y a quand même beaucoup de produits. Et un endroit de lien social. J'ai vraiment essayé de construire un univers où les gens peuvent se rencontrer, échanger. Alors échanger dans une relation client-commerçant autour de conseils, mais aussi échanger entre clientes. Et puis venir échanger. Voilà, j'ai des clientes qui passent, qui sont des clientes très occasionnelles, mais quand elles viennent parfois juste pour dire bonjour, discuter 10 minutes. Et c'est ça. Voilà, c'est ça aussi, cette boutique, c'est un lieu où j'espère en tout cas, où on s'y sent bien, un lieu chaleureux.
Tu as créé des partenariats au fil du temps autour de ta boutique?
J'ai créé un certain nombre de partenariats avec des intervenantes qui viennent animer donc des ateliers en broderie, en couture, en patchwork, J'ai eu du cartonnage, là, ça s'est arrêté. Mais oui, tout à fait, j'arrive à créer un certain nombre de partenariats et puis justement faire en sorte, autour de ces partenariats-là, que des personnes viennent, se rencontrent, échangent, passent un bon moment en faisant de la couture, de la broderie, mais aussi rigolent, mangent des petits gâteaux quand il y a un anniversaire. Ou, voilà, un lieu où on se sent bien.
Quel est le produit qui, toi, te fait le plus plaisir à utiliser ?
Le tissu.
Le tissu ?
Le tissu, parce que il y a une telle variété dans les motifs. Et en fonction de ce que l'on veut rendre, de ce que l'on veut réaliser, il y a tout le plaisir du choix. Toucher la matière, regarder les couleurs, toutes ces nuances, petits motifs, gros motifs, partir sur du géométrique, du fleuri, des unis. Il y a des gammes infinies et on arrive à trouver des combinaisons assez sympas. C'est-à-dire en fonction du regard que l'on peut avoir. Et je le vois parce que alors Myriam, qui maintenant travaille avec moi à temps partiel, a aussi des fois un regard un peu différent. Pour un même projet, on part d'un premier tissu et les tissus qu'on va mettre autour peuvent donner un ton complètement différent au résultat de l'ouvrage en fonction de nos perceptions, de nos envies, de notre humeur du moment. Et ça, ouais, c'est assez sympa à faire. Et puis, c'est quand on choisit, quand on aide un client ou une cliente à choisir un tissu, on y met de soi.
Oui.
Et on écoute aussi sa cliente ou son client pour savoir ce qu'il veut lui, qu'est-ce qu'il a comme intérieur, voilà, le résultat qu'il souhaite. Et c'est toujours un bel échange.
J'imagine. Prendre le temps, en tout cas.
Prendre le temps et faire de belles rencontres.
Est-ce que ta boutique, on n'a même pas dit, mais c'est un mot que j'utilise tout le temps, et dans mes interviews, que j'utilise beaucoup dans mon interview.
Tu as dû le dire 10 fois depuis qu'on échange.
Voilà, effectivement. La boutique de Clara s'appelle J'imagine, et effectivement, c'est une expression que j'utilise énormément. Cette imagination qui est vraiment au pouvoir dans ta boutique, finalement, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir la libérer. Est-ce que ça induit un rapport particulier au temps, même pour toi, dans ta façon de vivre maintenant que tu n'es plus salarié ?
Oui, c'est prendre le temps, changer son regard. C'est aussi se dire que tout est possible. Dans la réalisation de mes projets à moi, quand j'en ai en termes d'art de fil, mais aussi accompagner des personnes à réaliser leurs projets quand elles viennent avec une idée en tête, et qu'elles ne savent pas trop comment s'y prendre pour démarrer. On se met autour d'une table, et puis on discute, on échange, on se revoit. Mais voilà, c'est aussi ça, c'est prendre le temps, accompagner, créer, inventer, détourner des objets.
Ouais, par exemple, oui.
Là, comme ça, je n'ai pas d'idée en tête. Mais souvent, sur de la customisation de vêtements, sur de la réparation de vêtements, on peut arriver pour camoufler une tache, un trou... À se dire, bah, allez, là, on ne va pas prendre ça, mais on va plutôt utiliser ça. On a utilisé, il y a quelques temps, avec une cliente, de la baleine à corset pour renforcer les armatures d'un sac, par exemple.
D'accord.
Voilà. Okay. C'est à échanger, on se dit, ah, mais au fait, il y a ce produit-là, on va le mettre comme ça, et, bah, et voilà.
Donc, effectivement, c'est détourner le produit
oui,
de son
fait.
Usage initial.
Voilà.
J'ai cru entendre, là, dans ce que tu viens de nous dire, que tu prends le temps aussi de t'asseoir donc, avec tes clientes et de travailler sur des projets.
Oui, ça arrive, bien sûr. D'accord. Quand c'est comme ça, j'essaie plutôt de les inviter à venir un mardi ou un vendredi quand nous sommes deux à la boutique. Mais bien sûr, on se pose, oui, oui. On se pose et là, il y a des personnes qui viennent même terminer ou démarrer un projet à la boutique avec leur machine. Pour, voilà, on les guide un peu au départ et puis après, elles continuent chez elles.
C'est-à-dire que quelqu'un qui a une machine à coudre et qui finalement se dit « j'en tire pas le maximum » peut arriver dans la boutique en disant « avec ma machine à coudre, j'aimerais bien faire ça et j'y arrive pas et tu seras là pour ça ».
Alors moi je suis là pour ça au départ, en effet, déjà rien que pour apprendre à démarrer sur une machine à coudre, hein, ça m'arrive assez régulièrement. Des personnes qui récupèrent une machine, elles ne savent pas faire la canette, elles savent comment on fait tout l'enfilage, est-ce qu'elle est réglée. Donc je regarde, si je vois qu'il y a un gros souci... J'envoie vers un professionnel qui sait très bien s'occuper des machines à coudre. S'il n'y a pas de souci, la personne peut démarrer. Je montre des choses très, très basiques. Et puis après, elle peut aller prendre des cours dans la boutique ou ailleurs. Il y a un réseau associatif qui est aussi assez dense sur le Blaisois pour prendre des cours de couture, mais pour se perfectionner, développer des choses.
Oui, donc tu as aussi un lien avec les couturières du Blaisois, auprès desquelles tu peux envoyer les gens.
On essaie de faire travailler, en tout cas, et de se faire travailler entre professionnels, oui, bien sûr. Je conseille très facilement les clientes pour aller vers telle ou telle association qui pourra répondre à leurs besoins en termes de cours de couture ou de cours d'encadrement, par exemple, pour les brodeuses, vers des professionnels qui vendent des produits que moi je n'ai pas, qui sont installés sur le territoire. Oui, évidemment.
Ça sous-entend qu'en fait, tu, au-delà de travailler dans ta boutique, tu as aussi un gros travail de réseautage.
Il y a du réseautage et puis c'est une volonté aussi de travailler en local et de faire travailler les commerces installés sur le territoire.
Les produits que tu vends, tu arrives à trouver du local ?
Non.
Tout ce qui est tissu, fil, c'est complètement parti ?
Complètement. Alors je travaille sur certains produits, certains tissus. Quand même, sont dessinés par des créatrices françaises. Odile Bayol, qui est installée en Vendée. J'ai des articles pour créer des jouets de très belle qualité, d'ailleurs en velours pour les petits. Ça, c'est l'artiste installé en Bretagne qui les crée. Mais l'essentiel des produits maintenant vient de l'étranger.
Est-ce qu'il y a des salons de la mercerie à l'heure actuelle encore en France ?
Alors, pour les particuliers des salons d'art du fil, il y en a quand même encore beaucoup. À Paris, en fin d'année, évidemment, le grand salon de loisirs créatifs Porte de Versailles. Mais il y a un beau salon à Nantes, il y en a à Cholet. Et après, en local, il y a beaucoup de petits salons quand même pour des brodeuses ou des couturières. Sur le département, on a notamment un salon à Mer qui se tient au mois d'octobre. Et qui réunit des professionnels qui viennent quand même de un peu tout le territoire, pas uniquement de la région.
Vraiment un échange de passionnés de l'aiguille, hein, si je puis dire.
Échange de passionnés de l'aiguille qui se fait déjà quand même, qui est aidé par les réseaux sociaux, qui permet de découvrir aussi des créateurs, des créatrices installées en France et qui font des choses superbes. On peut acheter sur leur site, mais on peut aussi les rencontrer sur des salons et à Amer notamment, où il y a quelques créatrices en broderie plutôt sympa qui seront présentes.
Donc ce jour-là, est-ce que tu y vas pour présenter ta mercerie ou tu y vas vraiment toi en tant que curieuse pour aller voir ce que font les autres ?
Alors il y a beaucoup de salons où je vais en tant que curieuse pour voir ce que font les autres, pour aller chercher des idées, pour trouver des envies, rencontrer des fournisseurs potentiels aussi. C'est comme ça que j'ai réussi à rencontrer certains de mes fournisseurs. Et puis... le salon de mer qui est un salon local, là j'y vais aussi pour présenter mes produits et pour les vendre.
Quand tu communiques autour de tes ateliers, tu en parles sur les réseaux sociaux, tu en parles dans la presse, comment ça se passe ?
Alors j'en parle assez peu, parce que le bouche à oreille suffit pour remplir les ateliers, mais sinon on est sur réseaux sociaux, et puis les clientes qui viennent en boutique en fait, c'est beaucoup ça quand même.
Je crois que le bouche-à-oreille, c'est quand même le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une boutique.
Oui, et c'est émouvant d'entendre des clientes en parler et parler de la boutique. Oui, comme un lieu où elles peuvent se retrouver, où elles trouvent les produits qu'elles recherchent, où elles se sentent bien. C'est les plus beaux compliments.
Est-ce qu'il y a un témoignage comme ça qui te viendrait où vraiment tu as senti que la personne, ça avait été un lieu, un vrai lieu ressource, la mercerie ?
Une cliente une fois qui est passée au mois d'août en me disant « ça fait 8 jours que je n'ai pas parlé à quelqu'un et j'ai besoin de rien, mais je viens juste te voir pour parler, pour échanger. » Et ben oui, voilà. Et je me suis dit, c'est ça.
Ouais, ça rejoint ton projet initial.
Derrière la nécessité quand même de vendre, parce qu'il faut vivre pour qu'un magasin tienne, il y a ce retour-là et ces témoignages. Et je me dis, j'ai réussi un petit peu ce que je recherchais.
C'est pas mal.
C'est plutôt bien.
C'est plutôt bien. Est-ce que tu accueilles dans ta boutique des jeunes qui viennent découvrir le métier ou est-ce que ça reste quand même un métier confidentiel d'une certaine façon ?
Ça reste un métier confidentiel. Alors j'accueille certains jeunes et j'ai accueilli certains élèves en CAP couture. C'est pas si simple parce que la mercerie, c'est un métier de vente. Oui. C'est plus un métier de commerce que de réalisation de travaux de couture. Donc en général, plus d'une semaine, ils s'y ennuient. J'ai accueilli un stagiaire en vente avec lequel ça s'était plutôt super bien passé. Donc voilà, on est toujours prêt à transmettre, à montrer, mais plus par des ateliers courts que par des accueils de plus longue durée.
Donc des ateliers courts, ça veut dire aussi que tu peux avoir des ateliers dans ta boutique qui sont à destination de jeunes.
On a des ateliers couture pour les jeunes, tout à fait. Et puis Lucie, qui anime les ateliers couture, accueille des adultes, accueille des enfants. Mais elle vient aussi, alors elle intervient auprès d'établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et de temps en temps, ils viennent à la boutique faire leur atelier pour découvrir l'univers, les produits et participer à la vie de la boutique.
J'imagine voilà. Cette envie de toucher les uns et les autres, de s'en mettre plein les mirettes, comme on dit, côté couleur, parce que c'est quand même un monde très coloré, celui de la mercerie.
C'est un monde très coloré avec des produits partout. Donc il y a partout à regarder, à toucher, à chercher, et ça éveille les sens.
Tout à fait, oui. Je peux confirmer. Est-ce que dans les gens qui sont venus dans la boutique, il y a eu des gens qui sont arrivés avec quelque chose de très timide, du « je ne suis pas compétent, mais j'ai envie » et qui sont repartis en créant quelque chose de simple que tu aurais conseillé, mais qui au fur et à mesure reviennent, et plus ça va, plus osent, et entre la timidité initiale de faire un travail d'aiguille en se disant « non, je ne veux pas mon truc, je ne sais pas faire, je suis maladroit », arrive à quelque chose où ils sont fiers.
On en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui, en poussant la porte, disent « voilà, j'ai récupéré une machine à coudre, ou j'aimerais bien broder, mais je ne sais pas. » Et là, on discute, on dit « vous savez, il y a des cours quand même. Ah oui, non, mais moi, je suis très débutante, hein, je n'ai jamais fait, jamais touché. Oui, mais venez, essayez. Et puis, c'est libre, hein, donc vous pouvez venir une fois, jamais revenir, ou revenir. » Et puis, il y a des personnes qui, et quand même beaucoup, parce qu'on a des animatrices qui sont quand même extra, qui reviennent et qui maintenant font des choses, et quand elles regardent, elles me disent, mais attends, là, il y a 2 ans, mais jamais j'aurais pu penser pouvoir faire ça un jour. Donc oui, et puis ça leur donne des ailes aussi.
Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert en créativité que tu ne savais pas faire avant d'avoir ta mercerie, puisque tu as plein de produits qui te font de l'œil, est-ce que tu t'es lancé dans des choses que tu n'avais pas encore abordées?
Oui, sur la broderie d'embellissement, par exemple.
La broderie d'embellissement?
Alors, broderie d'embellissement, c'est broder avec les fils de broderie traditionnels, mais aussi rajouter des perles, broder avec des grosses laines, broder avec des gros rubans. Et ça, je l'ai découvert à la boutique avec des intervenantes comme Cécile Franconi, comme Roselyne Emery, qui sont des animatrices talentueuses. Et j'osais pas y aller. Et puis un jour, je me suis dit, allez, vas-y, fonce. Et puis maintenant, je pratique un peu et je trouve ça vraiment sympa.
Ça fait rêver. En tout cas, tu as des étoiles dans les yeux quand on parle. Les gens n'ont pas la chance de voir à quel point tu... Enfin, j'ai l'impression, quand je te regarde, que vraiment, tu as réalisé un rêve de gosse que tu ne savais même pas que tu avais en étant enfant, en fait.
C'était, je pense... Alors, c'était enfoui quelque part. C'était quand même enfoui quelque part et c'est toujours resté. C'est un univers que j'aimais. Je sais qu'avec mon époux, quand on faisait du tourisme, il savait qu'on passait par toutes les merceries. Il y en a malheureusement de moins en moins, mais toutes les merceries du coin étaient visitées. Donc il y avait quelque chose, voilà, un goût quelque part que ça irait si loin. Non, je ne pensais pas.
Et tu continues à aller visiter des merceries, rien que pour le plaisir?
Oui.
Oui.
Ah oui, toujours. Toujours.
Quelle est la mercerie qui t'a le... Alors, par la tienne, qui est vraiment ta création, quelle est la mercerie dans laquelle tu t'es sentie, mais alors le plus à l'aise, et où vraiment tu t'es dit, mais cet endroit est un endroit hors du temps, un peu magique?
Celle de Constance, parce que je l'ai beaucoup fréquentée. Elle était dans le centre-ville de Blois, dans le vieux Blois. Il y avait les plafonds étaient en voûte. C'était un vieux bâtiment, donc avec des pièces. Voilà, ça c'était assez... assez sympa, parce que le cadre était chouette, et puis voilà, on s'entendait bien avec Constance, donc c'est un univers que j'ai beaucoup aimé. Il y a une petite mercerie dans l'Indre, à Saint-Benoît-du-Sault, que j'ai bien aimé aussi, avec un vieux meuble de mercerie qui sentait la cire, voilà, des petits tiroirs partout, voilà. Et puis la mercerie de Blois-Vienne, qui était tenue par Pascal Pelletier, que j'ai connue bien avant, quand j'y allais enfant avec mon arrière-grand-mère.
Ah oui.
Parce que c'était vraiment la mercerie d'antan, avec ses meubles en bois, les tiroirs, les casiers à laine, voilà.
Tu nous auras en tout cas fait beaucoup rêver.
Merci.
Merci Clara de ton témoignage, de ton métier passion.
Merci.
Et au plaisir de revenir dans ta boutique que je conseille à tout le monde.
Alors à bientôt.
Merci. Pour découvrir le monde de Clara et de J'imagine, vous pouvez tout simplement aller sur son compte Facebook ou Instagram à Mercerie J'imagine, ou bien vous déplacer jusqu'à la boutique, ce que je vous conseille pour la chaleur du lieu, 46D Route Nationale à la Chaussée Saint-Victor, en vous souhaitant une belle visite. Vanessa, Sophie, Clara, Estelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes.